Bienvenue sur INF, de novice à experte, le podcast qui accompagne le passage de l'école à la vraie vie infirmière. Je suis Karine, ou prof INF, enseignante et infirmière, et ici, on parle sans filtre du parcours de formation, du développement professionnel, des défis du début de pratique comme infirmière et de tout ce qu'on apprend entre les lits et le terrain. Alors aujourd'hui, on prend un moment pour réfléchir ensemble et peut-être mettre des mots sur ce que tu vis ou sur ce que tu t'apprêtes à vivre. Parce que devenir infirmière, là, ça se fait pas en un jour, ça se construit une expérience à la fois. Salut, bienvenue au balado. Écoutez, cette semaine, on est au mois de juin, les CPI commencent, les externes commencent aussi, et j'ai le goût de parler davantage à nos candidates à l'exercice de la profession. Vous débutez dans votre titre de CPI, et puis j'ai le goût de vous donner des trucs et de vous aider à survivre à vos premières semaines de travail, à ce qui s'en vient durant l'été. De terminer l'école, de ton titre, puis tu pensais être prête, tu te sentais soulagée aussi que le cégep finisse ou l'université finisse, et là, tu te retrouves sur le plancher, puis on se demande, est-ce qu'on est vraiment fait pour ça? On a l'impression d'être de retourner novice, d'oublier plein de choses, d'être lente, de se poser mille et une questions. Puis quand on rentre à la maison, on est extrêmement fatigué après notre quart de travail, c'est normal, tout est nouveau tout le temps. Donc aujourd'hui, on parle des premières semaines de pratique, donc des peurs, des erreurs, des doutes normaux qu'on peut vivre là, en début de pratique. D'ailleurs, j'ai deux derniers balados qui étaient sur ce thème-là, donc on a rencontré Audrey qui est conseillère et Jessica qui nous a parlé de son année là, d'intégration dans la profession, puis comment qu'elle a trouvé ça, les défis qu'elle a rencontrés, mais aussi les solutions qu'elle a retrouvées. Donc là, je te donne plus ma perspective à moi dans l'épisode d'aujourd'hui, mais sache qu'il y a deux beaux épisodes déjà sur le sujet un petit peu. C'est quelque chose qui est proche de mon cœur aussi, parce que je trouve qu'une fois que vous avez gradué, on vous laisse un petit peu prendre voler de vos propres ailes, puis des fois, on se sent seul. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de te dire que tu n'es pas seul et que tu as de l'aide autour de toi, puis te donner un petit peu mon point de vue là-dessus pour qu'on puisse avoir les bonnes réflexions puis cheminer ensemble. D'abord, le premier thème que je vais aborder, c'est le choc entre l'école puis la vraie vie. Donc, sûrement que durant tes stages, tu avais un certain nombre de patients, donc peut-être que tu as pris en charge un patient la majorité du temps, puis tu es peut-être rendu à deux ou à trois si ton prof avait cette marge-là, puis un milieu de stage où est-ce qu'on était permis de prendre plusieurs patients par étudiant. Ça ne veut pas dire que c'est le cas, donc ça se peut très bien que tu ailles gérer juste un patient. Donc, dans les premiers quarts de travail, tu vas être surprise. Donc, dans ton orientation, tu vas apprendre à gérer de plus en plus de patients jusqu'à avoir une charge complète. Donc, ça, au niveau de l'organisation, c'est souvent un choc là, qui peut être difficile de savoir s'organiser au travers de cette charge-là, de bien gérer notre temps. J'ai fait un podcast aussi sur le plan de travail, ça peut peut-être t'aider. J'ai une formation qui existe aussi chez Tutorat Soins infirmiers, si jamais ça te tente, sur comment s'organiser là, avec une charge complète, comment on gère nos priorités, parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend beaucoup à l'école. On se sent pas si prête non plus que ça quand on rentre du cégep à la vraie vie. On se sent peut-être laissé à nous-mêmes un peu. On avait l'habitude d'avoir notre prof vers qui on peut se retourner. Puis là, puis nos collègues aussi, on était six. Là, on se retrouve un petit peu plus seul. Donc ça, c'est quelque chose qui va te mettre en position un petit peu d'humilité puis d'apprentissage. Ce choc-là, j'ai juste le goût de te dire qu'il est normal. Permets-toi de le vivre, de t'adapter aussi à ça. Donne-toi le temps de cheminer au travers du choc entre le cégep et la vraie vie, la vie professionnelle. Quand tu rentres sur les planchers, garde en tête que tu n'es pas censé être une experte, tu n'es pas censé être une infirmière. Déjà, hyper compétente, puis que si tu saches tout, c'est pas ce qui est attendu, puis c'est pas quelque chose, ça va prendre plusieurs mois et plusieurs années avant que tu sois en posture d'experte sur ce département-là. On a un cheminement, donc tu as le droit de te référer à plusieurs personnes, de poser des questions, de t'ajuster, d'apprendre au travers de ça. Tu as le droit de faire des erreurs, puis d'avoir une organisation qui est plus difficile, de finir peut-être pas nécessairement à l'heure, parce que tu es une débutante. L'important au travers de tout ça, je pense, c'est que tu sois une débutante qui est sécuritaire. Donc, une débutante sécuritaire, c'est quoi? Ça pose des questions, ça s'ajuste, c'est curieux, ça révise aux besoins. Donc, s'il y a une technique que tu n'as pas faite encore, puis que tu dois aller la faire, tu révises comment la faire, tu t'assures qu'il y a une de tes collègues qui vient t'aider là-dedans. Donc, ça, c'est une débutante qui est sécuritaire, qui pose des questions, qui est curieux, qui prend le temps de réviser ses dossiers. Donc, oui, ça prend du temps, mais c'est ça qui va faire de toi quelqu'un de sécuritaire. Tu peux avoir plusieurs peurs aussi quand tu commences en tant qu'infirmière, donc en tant que CPI. Puis les peurs, parfois, c'est des choses qu'on ne mentionnera pas beaucoup aux autres. Par contre, je trouve ça important de les verbaliser ici pour que tu vois que tu n'es pas seule. Puis que il y a une façon de recadrer ça, mais que dans le fond, il faut juste apprendre à vivre avec, puis à trouver une façon de la minimiser et de la contrer. OK? Je m'explique. Par exemple, tu peux avoir peur de faire une erreur, hein? Donc, la peur de faire une erreur, c'est vraiment quelque chose qui est très marqué dans le monde infirmier. On veut tous pas faire des erreurs, hein? On est des humains, on sait que les humains font des erreurs, mais on est dans un contexte où est-ce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est ce qu'on se fait dire, en tout cas. Donc, on se met un espèce de cadre où est-ce que je devrais pas me tromper, puis je devrais pas faire d'erreur de médicaments ou d'erreur de soins, de suivi, peu importe. Ben, cette part-là est intrinsèque parce qu'on veut pas causer du tort à notre patient. C'est pas pour ça hein, qu'on s'en va infirmière. C'est pas parce qu'on veut pas faire du mal à nos patients quand on s'en va infirmière. On veut aider, on veut supporter, on veut soigner. Puis les erreurs, c'est un peu à contre-courant de ça. Cette part-là, comment on la contre? On met le plus possible de filtres pour les éviter. On retourne à nos routines de soins, par exemple, par rapport à nos 7 bons, nos vérifications 7, 10, là, nos vérifications des bons pour les médicaments. Je reviens à ma routine que j'ai appris en début de parcours. Je m'assure de mettre en place une automatisation là, de ma routine de soins. Quand je rentre dans la chambre, je vérifie toujours le bracelet de mon patient. Si je rentre ça dans ma routine quotidienne de faire ces choses-là alors que je ne suis pas fatiguée, pas stressée, que je n'ai pas une grosse charge de patients aujourd'hui, par exemple, si j'ai ça dans ma routine assez relaxe aujourd'hui, ben quand j'aurai une routine qui est désorganisée parce qu'il y a un patient qui crash, parce que j'ai fait un TS hier, parce que je suis plus fatiguée ou préoccupée parce qu'il y a quelque chose qui se passe chez nous, si j'ai mis tous mes filtres en place dans ma routine, ben mes erreurs sont vraiment moins à risque d'arriver. Parce que mes erreurs, ils vont arriver quand? Ils vont arriver quand je suis fatiguée, préoccupée, que j'ai pas d'attention. Donc, il faut que j'aille instaurer des filtres dans tous les autres moments pour que ça devienne automatique quand je suis en perte d'attention, par exemple. Mais donc, cette part-là, elle est normale, mais on va essayer d'y trouver une espèce de contre-coup, là, pour essayer de la minimiser le plus possible. On a peur aussi parfois de manquer un signe important, de manquer un petit signe précurseur chez mon patient qui montrait qu'il est en train de crasher, par exemple, puis que plus ça avance, plus mon patient évolue, puis que là, finalement, il est en choc septique ou peu importe, mais j'ai pas vu le début. Puis bien ça, c'est normal, c'est quelque chose qui s'apprend énormément, je pense, de voir tous les petits détails chez mon patient, puis de suivre notre feeling qu'on a par rapport à ça. Puis parfois, là, l'enjeu, c'est qu'on a vu ces signes-là, mais on les a pas tenus. Hein? On n'a pas pris ça, puis on n'a pas agi dessus. Puis c'est souvent ça le plus gros enjeu, c'est que j'ai vu des signes et je me suis pas écoutée. Donc, la peur de manquer des signes importants, bien écoutez, la façon de se contrer, c'est de premièrement se faire confiance quand que je vois quelque chose, puis que je fais il y a quelque chose qui cloche ici. Faites-vous confiance, vous avez souvent raison à ces moments-là. Donc, ah, mon patient, il a l'air d'avoir un petit bris cognitif. Ah, c'est peut-être un délirium de foncer dans mon évaluation, de faire une tête aux pieds. On va trouver une infection, par exemple, ou des choses comme ça. Ah, me semble, j'ai entendu des crépitants, l'auscultation. À ce moment-là, ben, tu sais, je vais foncer, je vais demander au médecin une prise en charge parce que faites-vous confiance là-dedans. Vous avez appris des belles choses. Puis à la limite, on fait quelque chose puis on trouve rien, mais au moins, on n'aura pas passé à côté d'un petit signe qui va être important pour la suite. Une autre façon de bien contrer cette peur-là, c'est de m'assurer d'avoir les compétences nécessaires pour soigner mon patient ou les connaissances aussi, en fait, je devrais dire. Donc, si par exemple, vous avez un patient qui a une certaine chirurgie, il faut que je connaisse cette chirurgie-là et les complications qui peuvent arriver par rapport à cette chirurgie-là. Comme ça, je vais être en mesure de surveiller un signe important de décompensation par la suite. Des fois, c'est complexe parce que sur un milieu, je pourrais avoir plein de patients différents avec des chirurgies toutes différentes. Mais à ce moment-là, ben, on pose des questions, on fouille dans nos livres, on s'assure là, d'avoir l'appui de notre collègue aussi. On va aller. Vous pouvez demander à une collègue de venir évaluer votre patient avec vous, hein. Donc, si par exemple, vous évaluez le patient, vous voyez un petit quelque chose, ça cloche ou vous n'êtes pas certain d'une évaluation, vous trouvez qu'elle est normale, mais qu'il y a quelque chose qui vous fait douter. Ben, demandez à une infirmière de venir avec vous, une infirmière plus expérimentée. J'aurais besoin de ton soutien. Serais-tu jeter un petit coup d'œil? On dirait que j'entends des crépitants ou on dirait, par exemple, que le patient semble inconfortable alors qu'il est inconscient ou des choses comme ça. Allez chercher vos collègues puis demandez de l'aide. C'est une banque d'informations précieuses aux collègues, mais faut pas avoir peur de les déranger. Ce qui m'amène à ma prochaine peur, déranger nos collègues. On travaille en équipe, on veut qu'on ait une équipe qui est cohésive, qui se soutient. Donc, il ne faut pas avoir peur à demander à nos collègues plus expérimentés, à se trouver un allié dans nos collègues, quelqu'un vers qui je peux me retourner, poser mes questions, m'aider à avoir le jugement clinique aussi, qu'elle soit capable de m'expliquer pourquoi elle a pris une telle ou telle décision pour son patient. Donc, de pouvoir m'aider là-dedans. Trouvez-vous des bons alliés par rapport à ça. Je peux avoir peur aussi d'avoir l'air incompétente, d'avoir l'air pas bonne, d'avoir l'air comme si je devrais retourner en première session. Bien que cette peur-là, je pense que c'est normal qu'elle soit présente parce qu'on se sent dans un nouveau domaine où est-ce que je veux performer, je veux bien paraître, c'est mes futurs collègues de travail à long terme, je veux bien me fondre dans l'équipe. Donc, pour ça, je ne veux pas avoir l'air niaiseuse. Donc, ça va parfois me mettre des barrières parce que je vais essayer de poser le moins de questions possible. Je vais vouloir avoir l'air assuré, mais ça peut me tendre un piège là. Puis, dans le fond, je pose moins de questions, donc je suis moins sécuritaire et là, je fais une erreur. Donc, bien que cette peur-là, elle est normale, je pense qu'il faut la minimiser et se dire que tout le monde passe par là. Au travers de mes collègues, ils ont tous commencé à quelque part, donc ils ont tous eu l'air moins certaines à un moment donné. Ils vont reculer. Si jamais, hein, des fois, là, j'ai des commentaires sur TikTok ou sur mes réseaux qui me disent c'est bien beau, Karine, mais mes collègues, moi, dans mon équipe, ben, tu sais, je subis des pressions, je subis des commentaires négatifs et tout ça. Sachez que ce n'est pas normal de subir ça. Donc, si jamais c'est quelque chose qui est présent sur votre culture d'unité, il y a des choses que vous pouvez faire. Allez voir les bonnes personnes puis parlez. Aussi répondez. Ne vous laissez pas répondre mal en disant tu devrais savoir ça. Vous pouvez répondre, peut-être que je devrais, mais je suis en apprentissage, je débute. Donc, est-ce que tu peux me répondre ou je vais aller voir quelqu'un d'autre? Mais prenez cette assurance-là, puis nommez les choses. Des fois, sur le coup, hein, on reçoit des commentaires, puis on se dit après, oh, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça, mais sur le coup, on n'arrive pas à réagir, c'est normal. Mais restez pas pris avec ça. Si vous n'êtes pas à l'aise d'aller voir la personne qui vous fait des commentaires comme ça, ben, il y a d'autres personnes vers qui vous pouvez vous retourner. L'assistante, l'infirmière-chef, le syndicat, la conseillère, pour n'en nommer que quelques-uns. Okay? Donc, on se fait confiance là-dedans, puis on se donne la bienveillance qu'il faut pour passer au travers ces peurs-là. Des erreurs maintenant que quand on débute, elles sont fréquentes. Ben d'abord, c'est de vouloir tout faire parfaitement, de vouloir tout faire aussi sur ma liste et de ne rien déléguer. Donc, on veut justement bien performer, puis parfois, on se met énormément de pression, mais de mettre tout ça, de vouloir tout faire ça, puis de façon parfaite aussi, fait que mon organisation en souffre ensuite. que je manque de temps, puis que je manque aussi de confiance en moi parce que jamais je trouve que c'est assez parfait. Donc, comment qu'on contre ça, cette erreur-là? Ben, on essaie de prioriser nos soins. Donc, c'est normal que je les fasse pas tous. On accepte qu'il y a une continuité de soins, puis ça se peut très bien que je délègue au chiffre de soir ou de nuit, par exemple, certaines tâches. Je m'assure de bien connaître aussi les rôles de l'infirmière auxiliaire et du préposé pour être en mesure de déléguer les tâches que je peux déléguer aussi. Une autre erreur qui est fréquente, ben, passer trop de temps avec son patient. J'aurais le goût de vous dire que c'est jamais une erreur, mais des fois, quand on commence, on a de la misère à gérer notre temps. Justement, on finit plus tard, on prend pas nos pauses. Puis ça, ben, des fois, c'est parce qu'on n'arrive pas à dire à notre patient qu'on a d'autres choses à faire que d'être dans sa chambre. Puis là, il faut faire attention à comment on dit ça. Là, ça a l'air drôle comment je dis ça, puis c'est pas ça que je veux qu'il paraisse, mais quand on est dans la chambre, on doit être là à 150 %. Donc, d'être présent pour ce patient-là. S'il est anxieux, je veux prendre le temps avec lui pour calmer son anxiété. Je veux être rassurant, empathique. Je veux faire tous mes soins qu'il faut dans la chambre. Parfois, par contre, certains patients ont besoin de socialiser, puis c'est normal, hein? On est hospitalisé, on ne voit pas personne. Ce besoin-là est complètement normal. Donc, je peux socialiser un petit peu avec lui, mais il faut que je me fixe un certain créneau là, puis me dire, bon, ben, dans 20 minutes, il faut que je sois sortie parce qu'il faut que j'aille commencer la transfusion dans le neuf. Donc, il faut que je me mette un certain nombre de temps. Puis quand je vois que je dépasse ce temps-là, je peux le dire au patient que là, on a fait tous nos soins. Est-ce que vous êtes rassuré par rapport à votre anxiété? Est-ce que vous vous sentez mieux, par exemple, et tout ça? Maintenant, je sais que de parler avec moi, ça vous fait du bien, mais j'ai un autre patient qui m'attend dans l'autre chambre. Je vais revenir vous voir à tel moment. Donc, des fois, juste de nommer là, qu'on a d'autres choses, puis qu'on est désolé, qu'on aimerait pouvoir passer plus de temps avec eux, mais que ce n'est pas le cas là, aujourd'hui parce qu'on a d'autres barèmes. Les patients, ils vont comprendre, mais il faut juste se donner cette limite-là. Il y a des façons de le dire, des façons douces et empathiques. Même des fois, là, notre patient, il est anxieux, puis je manque de temps. Je sais, j'ai d'autres soins peut-être plus prioritaires à faire. Il y a une façon de le verbaliser au patient, de dire, regardez, je le vois que vous êtes anxieux. J'entends ce que vous me dites. Malheureusement pour moi, présentement, j'ai pas le temps de rester avec vous. Je peux m'assurer que quelqu'un vienne vous voir bientôt, soit l'auxiliaire, l'infirmière auxiliaire ou le préposé, ou même un bénévole. Je peux m'assurer de ça ou je peux repasser plus tard, mais là, présentement, j'ai un soin qui ne peut pas attendre dans l'autre chambre. Mais j'entends ce que vous me dites, puis je le vois que vous êtes anxieux. Des fois, juste de dire, je le vois que vous êtes anxieux, je pense à vous énormément, ben, ça amène l'empathie puis le soutien au patient. Déjà là, ça va l'apaiser un peu. Une erreur aussi qu'on peut faire en début de parcours, c'est de ne pas prendre de pause, de ne pas se donner le droit d'y prendre. Oui, il y a des chiffres qui sont exceptionnels des fois où est-ce que j'ai de la misère à prendre mes pauses, mais normalement, je devrais être en mesure de prendre une pause repas pour me poser puis prendre un petit peu de recul. C'est ce qui va m'aider, là, dans le fond, à avancer dans le reste du corps de travail puis à garder un beat qui est sain. Prendre une pause, ça passe avant tout à faire une bonne organisation, d'accepter de déléguer certaines choses aussi à nos collègues. Mais c'est essentiel à notre bien-être. On peut aussi avoir le goût de tout retenir dans notre tête, de se dire qu'on va se rappeler telle chose ou telle chose. Donc, ça, c'est une erreur qui est fréquente aussi. Donc, d'essayer de se rappeler tout et de pas noter assez de choses sur notre plan de travail. J'ai fait un podcast récemment sur les plans de travail, mais il faut noter ces choses-là. Vous allez voir qu'à 6 patients, là, tu peux plus tout te rappeler dans ta tête. Donc, prenez le temps de d'écrire dessus puis acceptez là, que ce papier-là, ça va être votre nouveau cerveau, là. Ça sera pas juste votre cerveau qui se rappelle de tout. Parfois, quand on est CPI, en début de pratique, on a tendance à dire oui à tout, à nos collègues qui viennent nous voir puis qui disent qu'ils ont un soin à faire. Est-ce que tu en as déjà fait des soins de trachéo? Veux-tu venir le faire? Donc, on a le goût de faire le soin de trachéo, mais il faut prioriser notre section à nous en premier. Donc, commence par bien faire tes soins dans ta section à toi, d'être confortable dans tout ce chiffre-là. Puis après ça, là, tu prendras des soins ailleurs pour l'apprentissage. Mais souvent, là, il faut accepter que sais, je vais dire non à certaines occasions d'apprentissage parce qu'il faut que je me concentre sur ma section. Présentement, c'est la mienne. Il n'y a plus personne d'autre qui l'apprend à ma place, là. Donc, il faut que je mette mes attentions puis mon temps sur ma section. Donc, essayez d'éviter de vous éparpiller dans d'autres sections, d'aller aider, mais surtout apprendre, là, par exemple, d'autres techniques parce que vous n'avez pas le temps au début. Dire oui à tout, ça veut aussi dire oui à tous les chiffres. Donc, des fois, on est tenté de prendre des TS, des temps supplémentaires, des charges de travail supplémentaires aussi, justement parce qu'on veut apprendre plus, mais aussi parce que le chèque de paye est intéressant. Début de pratique, on commence à avoir une vraie paye et tout ça après des années d'être serré dans notre compte de banque. On a le goût de voyager et tout ça. Mais assurez-vous de rentrer dans vos pantoufles un petit peu plus là, avant de commencer à accepter des TS. Parce que vous allez voir là, que la fatigue, là, elle arrive vraiment plus vite. Tout est nouveau quand on est CP. Donc, si je ne prends pas le temps de me reposer dans mes quarts de travail, vous allez devenir brûlé très rapidement. Finalement, ce que je pense qui aide vraiment à survivre à vos premières semaines, ben, c'est d'avoir comme je disais tantôt, une routine, une automatisation au niveau de vos soins. Donc, des routines de soins qui sont sécuritaires. Vérifier le bracelet, vérifier vos bons, d'avoir un cadre, là, par rapport à votre routine de soins, de faire toujours les mêmes choses au même moment, par exemple, va vous aider. D'avoir une bonne, feuille de plan de travail avec une liste de tâches puis des codes de couleurs qui va vous aider. Parfois, ça peut être aidant de se mettre quelques alarmes, c'est-à-dire sur ma montre ou sur mon téléphone, mais que, par exemple, si je fixe comme temps qu'à 11 heures, je dois avoir fini tous ces soins-là, je pourrais me mettre une petite alarme là, pour pas passer droit. Comme deuxième truc, poser des questions. Je l'ai dit plusieurs fois aujourd'hui, puis souvent dans mes TikTok, soyez curieux, demandez. N'hésitez pas, pensez pas que vous allez avoir l'air niaiseux. Le plus important, c'est de poser ces questions-là pour avoir une réponse, pour être sécuritaire. Puis aussi, ben, éviter de porter cette charge-là avant d'être dépassé là, par tous les questionnements qu'on a. C'est super important de juste se retourner vers quelqu'un. Acceptez d'avoir un rythme différent puisque vous êtes en apprentissage. La vitesse, elle va venir avec la répétition, avec l'aisance, avec les choses que vous ne voyez plus pour la première fois. Au début, tout est nouveau, donc tout prend du temps. Donc, acceptez d'être plus lent que même en stage. Acceptez d'être plus lent que vos collègues aussi. Trouver ses alliés au travers de ses collègues-là, donc que ça soit ta préceptrice, que ça soit une infirmière qui est plus expérimentée. Tu pourrais avoir des alliés aussi qui sont d'autres CPI. Regroupez-vous, parlez-en ensemble, aidez-vous entre vous. Donc, des fois, ce que je trouve le plus dur quand que je vous parle ensuite, c'est d'entendre que vous vous sentez seul alors que vous êtes plein gradués dans votre centre hospitalier où est-ce que tu travailles. Vous êtes plusieurs CPI qui vivent la même chose. Puis, on a tendance à s'isoler un petit peu plus. Donc, parlez-vous entre vous. Déconnecter après le travail. Donc, quand tu as terminé ton quart de travail, tu laisses ça derrière toi et tu t'en vas faire quelque chose qui te fait du bien. Et ça, pas juste pendant 15 minutes, pendant au moins plusieurs heures, là. Donc, il te faut des loisirs. Là, tu étais habitué là, que quand tu rentrais de tes stages, par exemple, fallait t'étudier pour ton examen. Là, maintenant, là, tu as du 8 à 4, du 16 à minuit ou du minuit à 8, quand ton shift est fini, là, tu n'as rien à apporter chez toi. Profites-en puis déconnecte. Fais complètement autre chose. Rassure-toi, ça change après quelques mois, quelques semaines. Plus ça va aller, plus tu vas connaître les médicaments que tu donnes, les techniques, tes maladies sur ton département. Tu vas prendre de l'aisance aussi au travers de ça. Tu vas commencer à reconnaître des situations qui arrivent, les complications sur ton milieu, ta spécialité, tu vas apprendre à les voir venir beaucoup plus rapidement. Tu vas développer ton jugement clinique aussi. Les choses vont devenir moins lourdes, moins nouvelles et tu vas prendre de l'aisance. Donc, donne-toi le temps. Tu vas finir par mieux respirer, par te sentir infirmière et compétente. Mais donne-toi quelques semaines, quelques mois pour apprendre tout ça. C'est normal, ce processus-là. Va écouter le podcast à Jessica, puis notre podcast avec Audrey là, sur l'intégration en pratique. Tu vas voir, ils ont des mots rassurants pour toi. Un petit mot, si quand j'ai commencé, moi, comme infirmière, que j'aurais aimé qu'on me dise? Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on dise à Karine qui débute comme infirmière sur le plancher, qui semble avoir de l'assurance, mais qui se compare constamment? Karine, tu penses que tout le monde sait plus de choses que toi. Tu te compares beaucoup. Tu rentres à la maison en vivant chacune de tes décisions. Tu réfléchis à ton corps de travail. Tu le revois. Qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux et tout ça. Mais ce que tu sais pas, c'est que tu vas devenir une infirmière que tu admires beaucoup, puis que tu vas traverser beaucoup de choses qui vont t'amener à être une infirmière compétente. Donne-toi ce temps-là, puis continue à faire les bonnes choses. Karine, tu es quelqu'un qui pose des questions, qui est curieuse, qui veut apprendre, qui est engagée aussi dans sa profession. Puis ça, tu vas le voir là, tout au long de ton parcours. Donc, continue à être comme ça, c'est ta force. Continue de te présenter au travail, même quand que tu doutes, même quand tu n'es pas certaine. La confiance, elle va venir avec l'expérience, avec le temps. Puis donne-toi ce temps-là et cette bienveillance-là envers toi. Ne sois pas trop dur envers toi-même. Tu vas faire des erreurs, on le sait maintenant. Tu as fait des erreurs de médicaments dans ta vie d'infirmière. Tu vas apprendre de celles-ci, puis tu vas t'assurer aussi de nommer les choses et de mettre les choses en place pour éviter qu'elles se répètent. Puis c'est justement ce qui fait de toi une bonne prof, c'est que tu es capable de le mettre en place avec tes étudiants. Donc, apprends de ces situations-là, apprends de ton expérience et de celle de tes collègues. Puis on se retrouve dans 15 ans quand tu seras prof au Cégep. Merci à tous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. À mes chers CP qui ont commencé, je vous dis bon courage. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir votre intégration. Vous avez terminé votre DEC. Vous avez appris pendant 3 ans la profession d'infirmière. Puis vous êtes rendu là. Si tu es rendu là, c'est parce que tu as tout ce qu'il faut pour faire ce travail-là. Donne-toi le droit d'apprendre, le droit de cheminer là-dedans et pose des questions. Si tu sens que ça va pas bien, si tu sens que tu as besoin d'aide plus que qu'est-ce que tu reçois présentement, va voir ton employeur et parle-en. Si tu es CP, nouvelle infirmière, ben, je t'invite à écrire en commentaire c'est quoi ton plus grand défi que tu as vécu dans tes premières semaines, comment ça se passe ton été. Viens m'écrire sur la page du podcast, en dessous de mes vidéos TikTok, n'importe où. Fais-moi signe, ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et puis, ben, je vous souhaite un super été comme CP. Aux externes, la même chose. Apprenez, posez des questions. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui s'applique à vous aussi. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode d'Inf de Novice à Experte.